profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans la rubrique Ufologie, je vous parlerai d'un contact rapproché. L'anneau du mont Mézenc, vécu par une famille en rando dans le secteur du triangle de la Burle, le triangle des Bermudes français, où il se passe décidément des choses bien curieuses. Puis en deuxième partie, je vous parlerai de Michel Collin, alias Clément XV, le pape des interplanétaires. Encore un personnage tout en couleur et qui est, disons-le, un petit peu barré. Allez, à tout de suite.
Follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep me away. I must follow him. Ever since he touched my hand, I knew.
Dossier OVNI, contact rapproché, l'anneau du mont Mézenc. Alors exactement, il s'agit d'une interview. Une interview de José Bouillon, qui est un auteur, chercheur et ufologue de terrain. Et il va interviewer une famille, plus exactement le papa dans l'histoire. Un certain Sylvain Lacroix. Je précise que c'est un nom, un prénom fictif. Alors pourquoi fictif? Ben... C'est quand vous voyez des choses bizarres dans le ciel, ou des choses bizarres tout court, hein, ça peut être des phénomènes de hantise, des ovnis, etc., j'en passe, les gens ne retiennent pas ce que vous avez vu. Ils retiennent surtout que vous êtes un petit peu agité du bocal ou allumé. Voilà. Alors, ils préfèrent, ces gens-là, rester très souvent anonymes. Pas toujours, mais très souvent. Donc, tout a commencé par une simple randonnée familiale pendant les vacances d'été 2020. En réalité, la promenade allait faire entrer les témoins, bien malgré eux, dans des mondes pour le moins surnaturels, à travers de sombres dédales aux ramifications encore plus obscures dans ce lieu unique où la réalité de nos vies quotidiennes s'efface l'espace d'un instant pour nous laisser entrevoir l'existence d'autres univers chevauchant notre réalité, enfin, notre réalité, celle que nous voulons bien voir. Mais laissez-moi vous raconter. Voici l'interview. José Bouillon pose donc cette question. Bonjour Sylvain, pouvez-vous présenter et nous expliquer l'incroyable expérience que vous avez vécue ? Réponse. Je suis né à Lyon et je travaille dans la fonction publique dans un établissement culturel. J'approche de la cinquantaine et très jeune, j'ai été amené à m'intéresser au domaine philologique car mon père s'y intéressait. Et surtout dans ma famille, deux membres avaient été témoins d'observations de ce type. Bref, mon histoire s'est produite lors de mes vacances passées en Ardèche avec ma femme Diana et mes deux petites filles, Lucia, 6 ans, et Belinda, 8 ans. Je précise que nous sommes une famille de randonneurs amateurs et dès que nous le pouvons, nous nous efforçons de satisfaire cette passion pour les grands espaces. Cette fois, pour nos vacances d'été, ma femme et moi avions donc décidé de faire l'ascension du mont Mézenc dans le secteur du fameux triangle de la Burle. Et qu'est-ce que le triangle de la Burle ? Alors, si vous m'avez suivi depuis plusieurs mois, je vous en ai déjà parlé, mais j'y reviendrai peut-être un jour. Alors c'est notre espèce de triangle des Bermudas, nous, vous voyez, en France, sauf que c'est pas sur la mer, mais sur la terre. Et le mont Mézenc est une des pointes de ce fameux triangle. Ici passent des choses un peu spéciales, des lumières, des apparitions, d'objets non identifiés, etc. Et j'en passe. Et surtout des crashs aussi un petit peu inquiétants. J'aurai l'occasion peut-être dans le futur d'en reparler. Bon, poursuivons. C'était le mercredi 5 août 2020. Le temps était très ensoleillé avec un beau ciel bleu qui pointait à l'horizon. On a commencé la randonnée vers 17h au pied du mont, au col de la Croix de Boutière, qui culmine à 1506 mètres d'altitude. Durant cette ascension, nous n'avons croisé que quelques randonneurs qui redescendaient ou montaient en nous dépassant pour certains d'entre eux. Je dois vous avouer que nous étions lents à réaliser cette montée du fait que nous avions les enfants avec nous. Rien de particulier ne s'est passé jusqu'à notre arrivée à ce fameux sommet. Pourtant, je ne peux pas me l'expliquer très clairement, mais j'avais déjà la désagréable sensation que quelque chose nous suivait. De fait, de temps en temps, je jetais des regards tout autour de moi. J'ai d'abord vu, à très haute altitude, comme une sorte de petit point blanc, alors pas très net, en mouvement, qui a aussitôt disparu. J'ai pensé à une illusion d'optique. Donc, une fois arrivés au sommet, nous nous sommes dirigés au niveau de la croix du Mézenc, à 1749 mètres. Il y avait un vent assez fort tout en haut qui venait dans notre direction et que les gens du pays nomment la Burle. Notons aussi qu'un couple de retraités présents sur les lieux nous a pris en photo pour immortaliser ce moment magique. Il était alors 18h27, à noter sur cette photographie. Les filles étaient très heureuses d'être ici, entourées de ces belles et grandes montagnes, avec cet air vivifiant. Moi-même, je dois dire que j'étais ravi de pouvoir partager ma passion des grands espaces avec toute ma petite famille. Question, aviez-vous encore cet étrange ressenti ? Sylvain Lacroix de répondre. Oui, ben, je sentais qu'il se passait quelque chose autour de nous. Quelque chose était là, j'en étais clairement convaincu. Une fois arrivés avec les enfants, nous sommes restés un moment sur les lieux. Après une petite collation, nous sommes dirigés sur le sommet opposé au sud, où se situe cette fois la table d'orientation qui culmine à 1753 mètres. Nous sommes arrivés à destination vers 18h43. Arrivé sur place, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde et les rares personnes présentes étaient d'ailleurs sur le point de partir. Nous avons pris quelques photos et fait le tour de ce joli sommet. Nous sommes passés non loin de l'antenne météorologique installée côté est. Une antenne rudimentaire en forme de long bâton au sommet duquel un tourniquet mesure la force du vent. Puis nous avons entamé la descente. Il était 19h02 à ma montre. Nous étions alors probablement les derniers à quitter le sommet. Jusque-là, nous n'avions alors rien remarqué de particulièrement anormal. Quand tout à coup, Alors que nous n'avions parcouru que quelques mètres, ma femme, qui était derrière moi en fin de cordée, s'est cognée le pied sur une grosse pierre. En relevant la tête, elle a alors eu la surprise d'apercevoir un objet en forme de disque, donnant l'impression d'une grosse lune blanche argentée, avec deux lumières très brillantes ovales et parallèles. L'objet se déplaçait dans notre direction, dans un mouvement horizontal légèrement descendant. Il évoluait, à moins d'une trentaine de mètres du sol, lentement et sans bruit. Il semblait tellement près qu'elle a cru qu'il allait atterrir. Ce fut pour elle un véritable choc. Sur le coup, elle a estimé sa taille à approximativement 2 mètres de diamètre. L'OVNI était donc face à ma femme, direction nord. L'objet que Diana voit distinctement est pour elle un objet solide avec des contours nets. Elle n'en a jamais douté. Il est fait d'une matière transparente comme du verre, car très réfléchissante aux rayons du soleil. Alors, détail important, Diana portait des lunettes de soleil polarisées et des lentilles de contact ce jour-là. Cela pourrait avoir faussé sa vision de l'engin. Mais ce n'était pas le cas de Sylvain et de ses deux enfants. Eux ne portaient pas de lunettes de soleil et encore moins de lentilles de contact. Et ils vont décrire l'apparition d'une toute autre manière. Écoutons donc Sylvain Lacroix. Donc, ne sachant pas ce que c'est exactement, car n'ayant jamais rien vu de pareil, elle me demande « C'est quoi ce truc ?» Les enfants et moi ne regardions pas dans cette direction à ce moment-là. Il m'a donc fallu un certain laps de temps avant que je comprenne de quoi elle était en train de parler. 7 à 8 secondes. Et que je localise enfin le truc dans le ciel. Ma femme, quant à elle, a vu l'objet changer de trajectoire, comme pour nous contourner par le flanc ouest du mont et s'éloigner légèrement en tournant sur lui-même, ce qui a eu pour conséquence une diminution de sa taille apparente et un changement progressif de forme. Bizarre. En effet, dans un mouvement de rotation, l'objet lui a montré un de ses flancs, laissant plus ou moins penser à la tranche d'un disque. Il est devenu plus fin, tandis qu'elle le voyait toujours sous cette forme solide. Nous sommes à présent tous les quatre en train d'observer l'objet. Pour ma part, je le vois sous la forme d'un gros ballon ou d'une bulle transparente, pas très nette, au niveau des contours, et se déformant ou ondulant sur les côtés, et à sa surface comme s'il était mal gonflé. Il nous donnait aussi l'impression de tourner lentement sur lui-même. Il avait des reflets lumineux dans la gamme de l'arc-en-ciel. En fait, on aurait dit exactement une bulle de savon géante dérivant sous les rayons ardents du soleil. J'étais convaincu de sa transparence, car je distinguais, comme derrière un voile, la couleur du ciel à travers ses parois. En outre, il ne me semblait guère plus gros qu'un ballon de baudruche à cette distance qu'il m'était difficile d'évaluer. Il était relativement près du sol par rapport à nous, et je n'avais pas à lever la tête pour suivre son déplacement relativement lent, sans à-coups ni variation de hauteur, et tout ceci à contrevent. Je le précise, car ça soufflait là-haut. Question de José Bouillon. Vos enfants ont-ils observé le même phénomène que vous ? Mes deux filles ont tout comme moi perçu l'objet sous cette forme de ballon-bulle transparent brillant et au contour flou. La plus jeune, Lucia, m'a signalé qu'elle voyait comme une vitre transparente en demi-lune sur l'objet. Et derrière cette vitre, elle est distinguée comme une porte blanche munie d'une sorte de poignée plus sombre. Pour elle, la porte était fermée. Elle voyait aussi 3 ronds lumineux jaunes en bas de cette vitre. Lorsque l'objet est arrivé sur le côté sud du mont, je me suis décidé à prendre des photos. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'un ballon. Mon comportement était inhabituel. J'étais comme hypnotisé par les lumières émanant de l'objet. Ma femme, qui n'a jamais quitté l'objet des yeux, n'a pas cherché non plus à le filmer ou le photographier, alors qu'elle avait son smartphone à portée de main. De mon côté, j'ai fait les photos par automatisme pour photographier un ballon, que je trouvais plutôt original dans un lieu pareil, alors que franchement, avec mon caractère de curieux, ça aurait dû au contraire me surprendre. L'OVNI avait-il un comportement bizarre ? Réponse. L'objet se déplaçait dans le plus parfait silence, telle une grosse bulle de savon. Mais son déplacement ne semblait nullement affecté par le vent qui soufflait assez fort ce jour-là. Oui, il y avait effectivement un comportement que ma femme et moi pourrions qualifier d'intelligent, téléguidé ou autre, enfin. Arrivé au bout du mont, il est resté un court instant sur place et a commencé à descendre jusqu'à disparaître de notre vue. À ce moment-là, ma femme et moi avons décidé de nous en aller alors que nous aurions pu essayer de voir où il était allé. Mais ça ne nous a pas traversé l'esprit puisque nous étions convaincus de la normalité de la situation. 5 minutes de descente plus tard, sur le chemin qui longe le mont sur son flanc ouest, nous avons revu l'objet. Il semblait poursuivre lentement sa route en entamant une descente vers la vallée, et ceci dans un mouvement que je qualifierais de rectiligne, toujours direction sud. L'objet était vraiment très brillant, et c'est ce qui nous a permis de le repérer. Alors il n'avait plus l'apparence transparente tout à l'heure, mais présentait plutôt l'aspect d'une structure solide et brillante. Dans un sursaut de lucidité, j'ai pris une nouvelle série de photos. Puis après cela, je l'ai perdu de vue alors qu'il continuait de s'éloigner. Je pensais ne plus pouvoir le localiser, mais au bout de quelques secondes, une lumière brillante a attiré mon attention. Elle se situait au niveau d'un champ dans la direction qu'avait semblé suivre l'objet. Sur le coup, je me suis demandé si ce n'était pas un autre objet qui venait d'apparaître au niveau du champ. Mais j'ai quand même fini par penser que c'était bien le même qui était là, immobile. Il semblait posé sur ou légèrement au-dessus du champ. Il y est resté quelques secondes, puis il a commencé à s'élever lentement et verticalement jusqu'à une certaine hauteur. Après être resté un court instant positionné, il a repris son vol légèrement ascensionnel, rectiligne et régulier en direction du mont, toutefois légèrement décalé à l'est, et c'est là qu'il est devenu de moins en moins brillant et visible. Nous avons fini par le perdre de vue, soit parce qu'il est passé derrière le mont côté est, soit parce qu'il est devenu trop difficile à identifier sur le fond du ciel. J'ai quand même pu faire une petite vidéo de l'objet, jusqu'à l'arrêt complet de mon appareil photo. La batterie était totalement déchargée. J'avais fait énormément de photos durant toute la journée. J'ai donc demandé à ma femme de me donner son portable pour le filmer, jusqu'à ce qu'il disparaisse. On peut très bien distinguer, quelques secondes sur cette vidéo, la forme d'un point très pâle en mouvement, comme une sorte de grosse bille en acier. Alors, ouvrons ici une autre parenthèse. Plusieurs journaux ont écrit que les ovnis fréquemment observés dans cette zone étaient en réalité des ballons météo, voire des satellites secrets. À ce stade du témoignage, peut-on encore parler d'une méprise visuelle de la part des témoins qui auraient en fait observé un ballon météo ou un ballon en millard? Le millard est une matière innovante issue du polyester qui propose une surface très fine et très résistante. Cette matière est donc privilégiée dans la fabrication de ballons récréatifs car elle permet de concevoir des ballons de couleur métallisée adoptant les formes les plus variées. Cependant, un simple ballon pour enfants en millard, gonflé à l'hélium, peut-il se déplacer à contre-courant malgré un vent violent ce jour-là? La réponse est non. En outre, un ballon sonde utilisé dans les domaines de la météorologie pour faire des mesures locales dans l'atmosphère, s'il est lâché librement au gré du vent, doit pouvoir atteindre des altitudes considérables. L'engin observé par les Lacroix n'était pas du tout dans cette configuration-là. Rien à voir non plus avec les désormais fameuses lanternes taille, si chères aux débunkers de tout poil et ceux qui nient les apparitions d'OVNI. Et Sylvain Lacroix continue son témoignage. Lors de son vol retour, nous avons perçu, comme sur la petite vidéo de mon appareil photo, le mouvement apparemment rotatif de l'objet sur lui-même. Et je me rappelle avoir dit à ma femme plusieurs fois « C'est sûr, ce n'est pas un ballon ». Je précise aussi qu'une autre famille qui gravissait le mont en contrebas a aussi vu l'objet sur la fin de l'observation. Et j'ai entendu, en passant près d'eux, lors de notre descente, un de leurs enfants questionner les parents avec insistance en se demandant ce qu'était cette chose bizarre qui se baladait dans les environs. Je me rappelle aussi que le pauvre gamin n'eut aucune réponse de la part de ses parents. Pour nous, notre expérience avec l'inconnu dans le triangle de la Burle venait de se terminer, nous laissant, moi et ma petite famille, avec beaucoup de points d'interrogation. Question. Dans l'effervescence que peut procurer un contact rapproché, et pour donner suite à cette observation avec cet engin inconnu, en avez-vous parlé à la gendarmerie pour réaliser un procès verbal ou un autre organisme étatique qui, selon vous, aurait pu vous venir en aide ou vous apporter des réponses à ce sujet ? Réponse. Pourquoi faire, finalement ? Être pris pour des fous ? Non, merci. J'avais déjà lu une de vos enquêtes et je savais que ma femme et moi pouvions trouver en vous une personne à l'écoute qui ne serait pas dans le jugement. Alors, que penser de ce témoignage ? Il existe le triangle des Bermudes dans la mer des Caraïbes et celui moins connu du secteur boisé de Scotland Street à Bridgewater aux États-Unis. Bien que la science ne parvienne pas à donner d'explications logiques sur la nature des forces qui agissent en ces lieux, il n'en demeure pas moins que les apparitions d'ovnis et disparitions mystérieuses abondent. La France, elle aussi, détient son mystérieux triangle maudit où des faits étranges défient les explications rationnelles et constituent encore aujourd'hui une énigme déroutante pour de nombreux ufologues. Un lieu magique où il règne un savant mélange de superstitions, de croyances ésotériques et religieuses alimentées au fil des décennies par des drames et catastrophes en tout genre. Le mont Mézenc, où est apparu le mystérieux OVNI, est un volcan vieux de plus de 25 millions d'années et il fait partie du triangle de la Burle. Les termes de Burle noire ou encore Bermude des Cévennes sont également utilisés. C'est un lieu hautement réputé en France, en particulier pour ses observations de boules lumineuses. Mais aussi et surtout pour ses crashs d'avions, dont un bon nombre reste encore aujourd'hui inexpliqué. Depuis des temps anciens, le mont Mézenc et ses alentours passent pour être un lieu terrible, à l'instant du mont Bugarach dans l'Aude. Pour en revenir à l'incroyable témoignage des Lacroix, il s'avère que la sonde lumineuse observée semble être dotée d'une technologie qui conditionne les témoins, peut-être dans le but de les apaiser. Cela semble être le cas durant toute l'observation rapprochée de la famille Lacroix. Les témoins n'ont ressenti aucune peur face à cet objet insolite. Ils ont en effet eu l'impression que l'ensemble de ce spectacle insolite était normal. L'implication que peuvent avoir ces sondes exogènes sur les observateurs semblerait signifier que nous sommes effectivement préparés au contact par le biais de ces mystérieuses sphères et leur technologie éblouissante. Concluons, pour revenir à l'observation des Lacroix. L'objet en forme d'anneau s'est comporté avec une parfaite maîtrise de l'environnement, s'assurant du calme absolu des témoins, comme si l'objet, dirigé intelligemment, avait eu pour objectif la famille elle-même. Un phénomène subjectif va d'ailleurs intervenir durant la nuit qui suit l'observation. Diana a revu en rêve l'objet insolite et il était conforme à ce que sa mémoire avait enregistré. Pourtant, la vidéo prise par les témoins nous montre une sphère métallique argentée et la photo prise à une distance de 100-150 mètres montre quant à elle un objet en forme d'anneau. Depuis longtemps, les témoins d'observation mettent l'accent sur les changements instantanés de couleur et de forme des engins. Mais le cas rapporté par Sylvain Lacroix est atypique. Il est question ici d'une sphère nébuleuse d'aspect solide qui change de forme tel un métamatériau qui se décline aussi bien dans la sphère physique que dans la sphère métaphysique et qui est capable de nous visiter dans nos rêves. Strange. Quoi qu'il en soit, cet événement a pu être photographié et filmé pour la toute première fois sur le mont. En effet, cet objet sphérique d'origine inconnue avait déjà été observé dans le triangle de la Burle et ce à de nombreuses reprises. Alors jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire, Les Lacroix ont donc réussi là où beaucoup d'autres ont échoué. Voilà un témoignage donc assez surprenant. On va faire une petite pause musicale. Sweet Home Alabama. Bon, c'est toujours aussi bon. Hein. Bon, mais bien sûr, vous écoutez CFM Radio, et vous avez bien raison. Alors, vous pouvez me retrouver tous les mercredis soirs, à 20h, hein, c'est une émission un petit peu bizarroïde pour certains, où on aborde les mystères et les choses inexpliquées. Et en deuxième partie, dans le cadre de l'histoire ufologique, je veux vous parler d'un certain personnage qui se fait nommer Clément XV, le pape des interplanétaires. Et oui, il y a des personnages truculents dans l'histoire ufologique. Ce qui est intéressant, là, c'est le christianisme qui épouse les thèses ufologiques. Allez, on va essayer d'expliquer tout ça. Les dogmes et le catéchisme de l'Église de gloire ont été élaborés à la fin des années 50, sans doute en 1958 ou en 1959, sous la dictée du ciel, par le futur pape des interplanétaires, un certain Michel Collin. Cette nébuleuse cultuelle est également identifiée sous la dénomination d'Église du miracle et plus communément l'Église rénovée de Dieu. Sans jamais nier la pureté naturelle des interplanétaires, Dieu aurait cependant voulu l'union de l'Église interplanétaire et de l'Église terrestre. Michel Collin, devenu Clément XV, aurait été ainsi le premier pape à consacrer prêtre des extraterrestres, lesquels l'ont contacté, selon certains de ses disciples, dès l'année 1947. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire est à prendre au conditionnel. Alors, petit historique de ce personnage et de cette mouvance pseudo-chrétienne. Le père Michel, Michel Collin, voit le jour en 1905 dans un village de Lorraine. Il est ordonné prêtre le 9 juillet 1933. Durant le mois d'avril 1935, il va fonder l'ordre ou œuvre des apôtres de l'amour infini, future pépinière de l'Église rénovée de Dieu. Au printemps 1942, en Isère, il organise la stupéfiante croisade des disciples du Rosaire et du Magnificat, lesquels, au nombre de quelques dizaines, vingt sans doute, arborent une sorte de chasuble immaculé orné d'un dessin de croix templière. Le 15 février 1943, un de ses proches ou alliés, le mystérieux prince ou bien cavalier blanc, financièrement soutenu par les royalistes locaux, va faire irruption dans la Drôme en invoquant une France bientôt libérée. À Valence et Montméran, la popularité de ce dernier est manifeste et ses liens avec le père Michel sont indéniables, car il a rejoint la croisade des disciples du Rosaire et du Magnificat, dites petites troupes blanches, lesquelles lui fournissent souvent une sorte d'escorte. Dans une lettre datée du 14 mars 1943, une certaine Madeleine, restée anonyme, écrit depuis Valence justement la phrase suivante, de laquelle transpire cependant un certain questionnement. Voilà ce qu'elle écrit. « Effet du jeûne, sans doute, on parle d'événements sensationnels à Montméran, où la Vierge aurait apparu, et surtout d'un cavalier blanc qui aurait passé, entraînant des hommes à sa suite, pour une croisade sans doute, et leur recommandant, inutile d'emporter vos cartes d'alimentation, votre chapelet, ça suffit. » Les Allemands ont beau perquisitionner, l'ensemble leur échappe, il y a de quoi. Puis vient cependant la mésentente avec le père Michel, une des historiettes sans doute les plus obscures de la Libération, entre emprisonnement par Vichy et tentative d'hégémonie des francs-tireurs et partisans ou d'activation de camps de détenus parallèles généreusement pourvus par les arrestations conduites par des milices patriotiques trop souvent autoproclamées. En octobre 1944, le père Michel est libéré. En décembre, il tente de rejoindre le front vers l'est. Et les canons se taisent enfin. C'est l'époque durant laquelle, de Vincennes, le général de Montsaber interdit aux artilleurs français de viser au-dessous du XVIIIe siècle. À l'aube des années 50, se constitue encore la Ligue pour les droits de Dieu et la Ligue de confiance. Puis le 7 octobre 1950, Jésus s'adresse au père Michel selon des termes sans appel. Je cite « Petit enfant, je t'ai choisi et tu dois être pape. « Ma mère t'assistera pendant toute ta vie pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. » Le Vatican, ou plus exactement le Saint-Office, réplique promptement en réduisant par un décret daté du 17 janvier 1951 le père Michel à l'état de laïque pour propagation de doctrines erronées et de fausses révélations. Le père Michel parle pour sa part de prétendus décrets, voire plus tardivement d'influence de la franc-maçonnerie. La suite est beaucoup plus complexe en admettant que cela soit possible. Aussi, durant le mois de mars 1961, Jésus dévoila le troisième secret de Fatima au père Michel directement et lui enjoignit de commencer officiellement à gouverner en union avec le pape Jean XXIII. Le père Michel se soumet et écrit aux évêques, puis au pape. Mais l'église rénovée de Dieu aurait cependant été créée un peu plus tôt, en décembre 1958, à Colmar. Son chef est bien entendu le pape mystique Clément XV, c'est-à-dire le père Michel, lequel place son organisation religieuse sous la dépendance directe de Jésus-Christ. En effet, Jésus en est l'éternel pontife et roi. C'est à lui que Clément XV, à Cléméry, en Lorraine, a remis sa tiare en le proclamant et l'intronisant comme souverain pontife. Ainsi, Clément XV rend modestement, en 1972, tout à son sauveur. Une phrase fait balle. Jésus est le Saint-Père, Clément XV n'est que son tablier. Mais revenons une décennie auparavant. Clément XV, qui est à l'époque serviteur de Jean XXIII, est à présent installé à Cléméry dès le mois de novembre 1960, et il y fonde un petit Vatican. Sa colère teintée de jalousie envers Paul VI, véritable pape depuis le mois de juin 1963, et qui n'est pas en règle d'après lui, est presque rabique, et c'est de cette région de Meurthe-et-Moselle qui va conduire jusqu'à sa mort, survenue en juin 1974, une croisade du Rosaire et du Magnificat. L'aide de la Sainte Église normande et de son inspirateur panscandinave, le fort raciste Maurice Guignard, ne lui fait ensuite, nous le verrons, jamais défaut dans ce déversement de calomnies et d'injures dirigées contre la personne de Paul VI par les Amis de la Vérité. Certaines de ses lettres diffamatoires se terminent alors fort énigmatiquement ou drôlatiquement. Ainsi, par exemple, tu seras foulé aux pieds. Le dimanche 9 juin 1963 à Cléméry, le pape Clément XV connaît finalement un couronnement officiel, entre guillemets. Bon, vous allez me dire, mais tout ça est terriblement religieux sur fond de secte catholique. Quel rapport avec les extraterrestres? J'y viens. Pendant ce temps, au Canada, une autre organisation s'appelle les Apôtres de l'amour infini. La dynamique est indéniable et le pape Clément XV, même balbutiant, fait déjà des émules ou des envieux. Les Apôtres de l'amour infini, mouvement francophone, a vu ainsi auparavant son principal animateur, le père Jean ou Gaston Tremblay, être consacré évêque en 62 par celui qui sera très vite connu comme étant le pape des interplanétaires, Clément XV. Cette excroissance canadienne, issue de l'orbite des disciples locaux de Clément XV, prend alors, on l'a dit au Québec, le nom d'apôtre de l'amour infini. Il s'agit, il faut le noter, d'une dénomination typique des formations cultuelles gravitant à des époques diverses dans l'influence de la nébuleuse Lorraine de l'Église rénovée de Dieu. S'écartant de la tutelle et de la dérive teintée de soucoupisme, de Clément XV, le père Jean va cependant se faire à son tour couronner pape en septembre 71 à Saint-Jovite, au nord de Montréal. Cependant, à Saint-Jovite, les extraterrestres eux-mêmes n'ont pas droit de citer et l'on voit dans le phénomène OVNI plus une illusion du démon pour attirer les âmes vers l'IRL que la manifestation de futurs alliés du Christ-Roi. Comme nous le précise plus tardivement l'ouvrage d'investigation intitulé « Prophétie pour la fin des temps ». Tout ça, c'est du mélange ésotérique et religieux. Le père Jean adopte alors le nom de règne de Grégoire XVII, puis en 1978, devant la tenace concurrence andalouse de Jean Grégoire XVII. Son objectif, il est vrai, un rien inquiétant, est de travailler avec la purification du monde, à la rénovation et à l'unité chrétienne. Selon ses directives, sobres mais empreintes de décision, un vaste monastère va être édifié à Saint-Jovite. En France, Lyon reste à l'écoute. Et en 1966, et c'est là que ça nous intéresse particulièrement, parce qu'on a compris tous ces embrouillamini religieux, première rencontre avec les interplanétaires. Dès le samedi 4 mai 1968, donc le fameux Clément XV adresse pour sa part au général de Gaulle, et même à l'ambassadeur soviétique en France, de stupéfiants télégrammes dont voici un extrait. Je cite. « Université, école laïque, esprit révolutionnaire, mauvais clergé, Paul VI, coupable pour désobéissance à Dieu, manifestation universelle, grève sur ordre, Moscou, vous condamnons ainsi que guerre. Vive Notre-Dame, Fatima victorieuse, Clément XV. » Ennemi déclaré de la pornographie et du vice, Clément XV a également projeté, peu avant son décès et dans un tout autre domaine, la mise sur orbite prochaine d'un Vatican cosmique. Durant le mois de mai 1973, son organe écrit, La Vérité, déclare ainsi que sa première rencontre avec les interplanétaires aurait eu lieu le 14 août 1966, veille de l'Assomption, devant la grotte Notre-Dame de Lourdes au Petit Vatican à Clémery. De toute évidence, ceux qui se trouvaient là étaient les uns en tunique blanche, d'autres en vêtements de chevalier, avec des cuirasses d'argent, et d'autres avec des cuirasses brillantes comme de l'or. Ils parlaient français, mais aussi l'allemand, disons toutes les langues usuelles. Mais surtout, ils parlaient à l'esprit. Le mythe du cavalier blanc est, on le voit ici, toujours vivace. Il faut encore préciser que durant le mois de mars de la même année 73, le mensuel du pape de Clémery a déjà exposé les analyses de son fondateur au sujet des interplanétaires. Je cite. « Parmi les nombreuses planètes que j'ai pu visiter par une permission de notre Seigneur, celle de la Trinité est une merveille du divin Créateur, où des êtres d'une beauté merveilleuse vivent de Dieu et pour Dieu dans une harmonie parfaite. Les interplanétaires sont susceptibles de croître en perfection, en don et en grâce. » C'est ainsi que la planète Akart est supérieure à notre Terre, et cependant elle est encore à l'un des premiers stades. Quelle belle loi régisse ces 22 milliards d'habitants. Les interplanétaires ont toute facilité de se déplacer dans l'espace. Nombreux sont ceux qui ont déjà atterri à Clémery. Ils ne nous veulent que du bien, sauf à nous pour nous rendre service. Faites-nous connaître, vient de me dire un interplanétaire. Ce sera pour la joie de beaucoup. Je vous laisse digérer ce genre de commentaires. On nous ajoutera que La Vérité, datée du mois de janvier 72, a auparavant rendu public le témoignage d'un contacté, par ailleurs, disciple de Clément XV. Les interlocuteurs de ce contacté sont ainsi trois hommes avec des cheveux longs et blonds, avec des yeux azur et de dimensions gigantesques, assis sur le divan et dans le fauteuil. Il me regardait et souriait. Je reculais comme pétrifié de stupeur et d'effroi. Instinctivement, je levai le bras et bénis d'un geste ample. Les trois hommes s'agenouillèrent sur le champ et se signèrent de la croix avec dévotion et recueillement. Jamais je n'ai vu tant de beauté. Je compris qu'il s'agissait d'êtres extraterrestres. Voilà le témoignage. Vous en pensez ce que vous voulez. Le pape Clément XV n'ignore rien, on s'en doute, de la technique spatiale des propulsions mises en œuvre par ces interplanétaires, lesquels sont par ailleurs exemples du péché originel, et nous visitent depuis Mars, Vénus, Jupiter ou depuis bien plus loin encore. Ils devinent de même que leur vaisseau croise à 35 000 km/h à proximité de la Terre et qu'il passe ensuite en vitesse lumière. Leur science a donc toujours évolué avec harmonie et mesure. Il existerait de plus des astronaves et des éterons de l'espace. Les auteurs d'un ouvrage d'investigation déjà cité, Prophétie pour la fin des temps, précisent même, en citant la revue Documents présents, que les astronaves sont des vaisseaux-mères, de véritables villes flottantes. On y marche comme dans la rue. On ne sent aucun mouvement malgré l'énorme vitesse du vaisseau. Mystère, bien sûr. Mais les frères de l'espace révèlent que ces vaisseaux sont entourés par des éterons. Ce sont des halos lumineux destinés à repousser hors de portée toute particule qui se jetterait contre le vaisseau mère. Ces éterons se meuvent à la vitesse supérieure de la lumière. Waouh ! Le pape Clément XV, somme toute assez fatigué, délivre également à l'ORTF une incroyable interview. Je cite cette interview. Ils, c'est-à-dire les interplanétaires, continuent à venir. Voyez ces portraits photographiés. C'est ce qui me donne le courage de vivre ici-bas et de faire la mission. Quelle joie de vivre avec toute la création. Quand je vais là-haut vers eux, quand on voit toutes ces beautés, c'est pénible de revenir ici-bas, j'ai hâte de m'en retourner. Si Dieu me laisse ici-bas, c'est pour préparer nos frères à l'enlèvement. Heureux les partants, les fidèles de Dieu. Il n'y a pas que les cosmonautes pour voyager dans l'espace. Savez-vous, messieurs, qu'il y a 50 millions de soleils, chaque soleil a encore tout un ensemble de planètes? Ne me parlez pas d'une planète, il y en a des millions d'autres. Messieurs, tâchez de passer quelques vérités au monde. J'ai fait ma commission. Cette intervention très enlevée va surtout engendrer, on s'en doute, interrogation, puis moquerie et ricanement dans le monde des téléspectateurs et autres adorateurs de la drôle de lucarne. Les représailles vont être terribles et il est utile de préciser ici que la Sainte Église normande a ensuite annoncé, en septembre 1973, la mise en batterie d'armes terrifiantes afin de réprimer de tels manquements de respect à l'endroit du pape Clément XV. Je cite « C'est avec un extrême regret que nous allons être obligés d'engager contre ceux qui poursuivent Clément XV nos puissantes radiations vertes qui sont l'arme absolue des loges druidiques et odiniques. » Waouh. Mes amis des loges druidiques et odiniques d'Écosse, d'Irlande, de Bretagne, d'Islande, de Norvège, du Pays de Galles, de Normandie, de Suède, quelques 3500 hauts magnétiseurs sont prêts à entrer en action. Mon Dieu. Voilà un témoignage assez stupéfiant. Michel Collin, l'homme qui aurait été conduit sur la planète Marie en 1968, accompagné de deux soucoupes volantes, quitte notre monde le 23 juin 1974. Il a donc pu mettre en œuvre son grand projet, à savoir établir des chapelles sur Mars et sur Vénus. Oui, rien que ça. Le jugement de ces turiféraires est alors empreint de compassion. Je cite « Humainement parlant, sa mission a échoué, car il a été rejeté par les autorités responsables. » quelle aventure mentale surtout. Ce genre de vie vécue sur fond de mysticisme et de pseudo-christianisme mêlé d'ufologie évidemment, discrédite absolument ceux qui font des recherches très sérieuses dans le domaine ufologique. Mais il me semblait bon de parler de personnages un peu truculents de cette sorte, pour vous rendre compte que la famille ufologique est très très étendue. Il me reste une petite minute, je vais vous donner une petite nouvelle de l'intelligence artificielle. Je trouve que l'information ne manque pas de sel. Un ingénieur licencié pour avoir déclaré que l'intelligence artificielle de Google a conscience d'elle-même. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau ? Blake Lemoine, un ex-ingénieur et chercheur dans la division intelligence artificielle de Google, a été licencié pour avoir publiquement affirmé qu'un chatbot de Google avait une âme, enfin, ou plutôt que l'IA était consciente d'elle-même. Cette étrange affaire trouve son origine dans un article de Blake Lemoine publié sur Medium. Ce dernier donne des extraits de ses conversations avec le chatbot LAMDA, Language Model for Dialogue Application. Des conversations qui, selon l'ingénieur, seraient la preuve d'une forme d'état de conscience de l'intelligence artificielle. De fait, certains passages sont troublants. Le chatbot demande par exemple à ne pas être débranché ou être reconnu comme un employé de Google plutôt que comme une chose. Bouleversé par ses échanges avec l'IA, Blake Lemoine, qui est aussi un chrétien conservateur, cela peut être joué dans l'analyse, a demandé à ce que Google épargne LAMDA toute forme d'expérience qui pourrait nuire à son intégrité. La réponse de Google fut plutôt cinglante. Ainsi, Brian Gabriel, le porte-parole de Google, a publié un communiqué pour retorquer sèchement l'interprétation de Lemoine. Notre équipe, composée d'éthiciens et de technologues, a examiné les préoccupations de Blake conformément à nos principes en matière d'intelligence artificielle et l'a informé que ces affirmations ne sont pas fondées. Point final. Circuler, il n'y a rien à voir. Et oui, on se croit tout puissant derrière un clavier, mais c'est peut-être plus compliqué que ça. Bon, sur ce, vous pouvez reprendre une activité dite normale dans notre monde d'illusions. Je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de nos programmes et je vous dis bye bye. Never which way it goes.